Les possédés, première partie, chapitre 5. Le tressage serpent. 1. Barbara Petrovna sonna et se laissa tomber sur un fauteuil près de la fenêtre. « Asseyez-vous ici, ma chère, » dit-elle à Marie Timofeyevna en lui indiquant une place au milieu de la chambre, devant la grande table ronde. « Stepan Trofimovitch, qu'est-ce que c'est ? Tenez, regardez cette femme, qu'est-ce que c'est ?»«
Je... » commença péniblement Stepan Trofimovitch. Entra un laquais.
« Une tasse de café, tout de suite, le plus tôt possible !» Qu'on ne dételle pas.
Mais, chère et excellente amie, dans quelle inquiétude !
Gémit d'une voix défaillante Stepan Trofimovitch.
Ah, du français, du français ! On voit tout de suite qu'on est ici dans le grand monde !
S'écria en battant des mains Marie Timofeyevna, qui d'avance se faisait une joie d'assister à une conversation en français. Barbara Petrovna la regarda presque avec effroi.
Nous attendions tous en silence le mot de l'énigme. Chatov ne levait pas la tête. Stepan Trofimovitch était consterné, comme s'il eût eu tous les torts. La sueur ruisselait sur ses tempes.
J'observais Lisa. Elle était assise dans un coin à très peu de distance de Chatov. Le regard perçant de la jeune fille allait sans cesse de Barbara Petrovna à la boiteuse et vice-versa. Un mauvais sourire tordait ses lèvres. Barbara Petrovna le remarqua. Pendant ce temps, Marie Timofeyevna s'amusait fort bien. Nullement intimidée, elle prenait un vif plaisir à contempler le beau salon de la générale. Le mobilier, les tapis, les tableaux, les peintures du plafond, le grand crucifix de bronze pendu dans un coin, la lampe de porcelaine, les albums et le bibelot placé sur la table.
« Tu es donc ici aussi, Chatouchka ? » dit-elle tout à coup. « Figure-toi, je te vois depuis longtemps, mais je me disais, ce n'est pas lui, par quel hasard serait-il ici ? »
Et elle se mit à rire gaiement.
« Vous connaissez cette femme ?»
demanda aussitôt Barbara Petrovna à Chatov.
« Je la connais, » murmura-t-il.
En faisant cette réponse, il fut sur le point de se lever, mais il resta assis.
« Que savez-vous d'elle ? Parlez vite, je vous prie. »«
Eh bien, quoi ? » répondit-il avec un sourire assez peu en situation.
« Vous le voyez vous-même. »«
Qu'est-ce que je vois ? Allons, dites quelque chose. »
« Elle demeure dans la même maison que moi, avec son frère, un officier. »«
Eh bien ?»«
Mais ce n'est pas la peine d'en parler, » grommela-t-il, et il se tut.
« De vous, naturellement, il n'y a rien à attendre, » reprit avec colère Barbara Petrovna. Elle voyait maintenant que tout le monde savait quelque chose, mais qu'on n'osait pas répondre à ses questions, qu'on voulait la laisser dans l'ignorance. Le laquais revint, apportant sur un petit plateau d'argent la tasse de café demandée. Il la présenta d'abord à sa maîtresse, qui lui fit signe de l'offrir à Marie Timofeyevna.
« Ma chère, vous avez été transie de froid tantôt. Buvez vite, cela vous réchauffera. »
Marie Timofeyevna prit la tasse et dit en français « Merci » au domestique. Puis elle se mit à rire à la pensée de l'inadvertance qu'elle venait de commettre. Mais, rencontrant le regard sévère de Barbara Petrovna, elle se troubla et posa la tasse sur la table.
« Tante, vous n'êtes pas fâchée ? » murmura-t-elle d'un ton enjoué.
Ces mots firent bondir sur son siège Barbara Petrovna.
« Quoi ? »
cria-t-elle en prenant son air hautain.
« Est-ce que je suis votre tante ? Que voulez-vous dire par là ? »
Marie Timofeyevna ne s'attendait pas à ce langage courroucé. Un tremblement convulsif agita tout son corps, et elle se recula dans le fond de son fauteuil.
« Je pensais qu'il fallait vous appeler ainsi.
balbutia-t-elle en regardant avec de grands yeux Barbara Petrovna. « J'ai entendu Lisa vous donner ce nom. »«
Comment ? Quelle Lisa ?»«
Eh bien, cette demoiselle !» répondit Marie Timofeyevna en montrant du doigt Elisabeth Nikolaïevna.
Ainsi, pour vous, elle est déjà devenue Lisa.
C'est vous-même qui tantôt l'avez appelée ainsi, reprit avec un peu plus d'assurance Marie Timofeyevna.
Il me semble avoir vu en songe cette charmante personne, ajouta-t-elle tout à coup en souriant.
À la réflexion, Barbara Petrovna se calma un peu. La dernière parole de Mademoiselle Lebiatkine amena même un léger sourire sur ses lèvres. La folle s'en aperçut, se leva, et de son pas boiteux s'avança timidement vers la générale.
« Prenez-le, j'avais oublié de vous le rendre. Ne vous fâchez pas de mon impolitesse, »
dit-elle en se dépouillant soudain du châle noir que Barbara Petrovna lui avait mis sur les épaules peu auparavant.
« Remettez-le tout de suite et gardez-le. Allez vous asseoir, buvez votre café. Et je vous en prie, n'ayez pas peur de moi, ma chère. Rassurez-vous, je commence à vous comprendre. »
Stepan Trofimovitch voulut de nouveau prendre la parole.
« Cher ami, oh, faites-nous grâce de vos discours, Stepan Trofimovitch. Nous sommes déjà assez déroutés comme cela. Si vous vous en mêlez, ce sera complet. Tirez, je vous en prie, le cordon de sonnette que vous avez près de vous. Il communique avec la chambre des servantes. »
Il y eut un silence. La maîtresse de la maison promenait sur chacun de nous un regard soupçonneux et irrité. Entra Agacha, sa femme de chambre favorite.
« Donne-moi le mouchoir à carreaux que j'ai acheté à Genève. Que fait Daria Pavlovna ?»«
Elle n'est pas très bien portante.
Va la chercher. Dis-lui que je la prie instamment de venir malgré son état de santé. »
En ce moment, des pièces voisines arriva à nos oreilles un bruit de pas et de voix semblable à celui de tout à l'heure. Et soudain, parut sur le seuil Praskovy Ivanovna. Elle était agitée et hors d'haleine. Maurice Nikolaïevitch lui donnait le bras.
« Oh, Seigneur, ce que j'ai eu de peine à me traîner jusqu'ici !»« Lisa, tu es folle d'en user ainsi avec ta mère »
gronda-t-elle, mettant dans ce reproche une forte dose d'acrimonie, selon l'habitude des personnes faibles, mais irascibles.
« Matouchka, Barbara Petrovna, je viens chercher ma fille chez vous !»
La générale Stavrogine la regarda de travers, se leva à demi, et d'un ton où perçait une colère mal contenue.
« Bonjour, Praskovy Ivanovna, » dit-elle. « Fais-moi le plaisir de t'asseoir, j'étais sûre que tu viendrais. »
Un pareil accueil n'avait rien qui pût surprendre Praskovy Ivanovna. Depuis l'enfance, Barbara Petrovna avait toujours traité despotiquement son ancienne camarade de pension. Et, sous prétexte d'amitié, elle lui témoignait un véritable mépris. Mais, actuellement, les deux dames se trouvaient vis-à-vis l'une de l'autre dans une situation particulière. Elles étaient complètement brouillées depuis quelques jours. Barbara Petrovna ignorait encore les causes de cette rupture, qui, par suite, n'en était que plus offensante pour elle. D'ailleurs, avant même que les choses en vinssent là, Praskovy Ivanovna avait, contre sa coutume, pris une attitude fort hautaine à l'égard de son amie. Comme bien on pense, cela avait profondément ulcéré Barbara Petrovna. D'un autre côté, il était arrivé jusqu'à elle certains bruits étranges qui l'irritaient surtout par leur caractère vague. Nature franche et droite, la générale Stavrogine ne pouvait souffrir les accusations sourdes et mystérieuses. Elle leur préférait toujours la guerre ouverte. Quoi qu'il en soit, depuis 5 jours, les deux dames avaient cessé de se voir. La dernière visite avait été faite par Barbara Petrovna, qui était revenu de chez la Drozdov cruellement blessé. Je crois pouvoir le dire sans crainte de me tromper. En ce moment, Praskovya Ivanovna venait chez son amie, naïvement convaincue que celle-ci devait trembler devant elle. Cela se voyait sur son visage. Or, Barbara Petrovna devenait un démon d'orgueil dès qu'elle pouvait soupçonner que quelqu'un pensait la tenir à sa merci. Quant à Praskovya Ivanovna, comme beaucoup de personnes faibles qui se sont longtemps laissées fouler aux pieds sans mot dire, elle s'emportait avec une violence inouïe, sitôt que les circonstances lui fournissaient l'occasion de prendre sa revanche. À présent, il est vrai, elle était souffrante, et la maladie la rendait toujours plus irritable. J'ajouterai enfin que notre présence dans le salon n'était pas faite pour imposer beaucoup de réserves aux deux camarades d'enfance et les empêcher de donner un libre cours à leurs ressentiments. Nous étions tous plus ou moins des clients, des inférieurs devant qui elle n'avait pas à se gêner. Stepan Trofimovitch, resté debout depuis l'arrivée de Barbara Petrovna, s'affaissa sur un siège en entendant crier « Praskovya Ivanovna » et me jeta un regard désespéré. Chatov fit brusquement demi-tour sur sa chaise et bougonna à part soi. Je crois qu'il avait envie de s'en aller. Lise se leva à demi, mais se rassit aussitôt, sans même écouter, comme elle l'aurait dû, la semonce maternelle. Évidemment, ce n'était pas le fait d'un caractère obstiné, mais d'une préoccupation exclusive, sous l'influence de laquelle elle se trouvait alors. La jeune fille regardait vaguement en l'air, et avait même cessé de faire attention à Marie Timofeyevna. Aïe, ici, fit Praskovya Ivanovna en indiquant un fauteuil près de la table. Puis elle s'assit péniblement avec le secours de Maurice Nikolaïevitch. Sans ces jambes, Matouchka, je ne m'assiérai pas chez vous, ajouta-t-elle d'un ton fielleux. Barbara Petrovna leva un peu la tête. Sa physionomie exprimait la souffrance. Elle appliqua les doigts de sa main droite contre sa tempe, où elle sentait évidemment un tic douloureux. « Qu'est-ce que tu dis, Praskovya Ivanovna? Pourquoi ne t'assiérais-tu pas chez moi? Ton défunt mari m'a témoigné toute sa vie une sincère amitié. Toi et moi, à la pension, nous avons joué ensemble à la poupée étant gamine. » Praskovya Ivanovna se mit à agiter les bras. « J'en étais sûre. La pension vous sert toujours d'entrée en matière quand vous vous préparez à me dire des choses désagréables. C'est votre truc. » « Décidément, tu es mal disposée aujourd'hui. Comment vont tes jambes? On va t'apporter du café. Bois-en une tasse, je t'en prie, et ne te fâche pas. » « Matouchka, Barbara Petrovna, vous me traitez tout à fait comme une petite fille. Je ne veux pas de café, voilà. » Et quand le domestique s'approcha d'elle pour la servir, elle le repoussa d'un geste brutal. Du reste, sauf Maurice Nikolaïevitch et moi, tout le monde refusa de prendre du café. Stepan Trofimovitch, qui en avait d'abord accepté, laissa sa tasse sur la table. Marie Timofeyevna aurait bien voulu en avoir encore, déjà même elle tendait la main, mais le sentiment des convenances lui revint, et elle refusa, visiblement satisfaite de cette victoire sur elle-même. Un sourire venimeux plissa les lèvres de Barbara Petrovna. « Sais-tu une chose, ma chère Praskovya Ivanovna? Tu es sûrement venue ici avec une idée que tu t'es encore mise dans la tête. Toute ta vie, tu n'as vécu que par l'imagination. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la pension, tu t'es fâchée. Mais te rappelles-tu le jour où tu es venu raconter à toute la classe que le hussard Chablikine t'avait demandé en mariage? Madame Lefébure t'a alors convaincue de mensonge. Et pourtant, tu ne mentais pas. Tu t'étais simplement fourré dans l'esprit une chimère qui te faisait plaisir. Eh bien, parle! Qu'est-ce que tu as maintenant? Qu'as-tu encore imaginé pour être si mécontente? Et vous, à la pension, Vous vous êtes amouraché du pope qui enseignait la loi divine. Vous devez vous souvenir de cela aussi, puisque vous avez si bonne mémoire.
Elle eut un rire sardonique, auquel succéda un accès de toux.
« Ah, tu n'as pas oublié le pope !» reprit Barbara Petrovna en lançant à son interlocutrice un regard haineux. Son regard était devenu vert. Praskovy Ivanovna prit tout à coup un air de dignité.
« Maintenant, Matouchka, je n'ai pas envie de rire. Je désire savoir pourquoi, devant toute la ville, vous avez mêlé ma fille à votre scandale. Voilà pourquoi je suis venue. »
Barbara Petrovna se redressa brusquement.
« À mon scandale ? » fit-elle d'une voix menaçante.
« Maman, je vous prie de veiller davantage sur vos expressions !» observa soudain Elisabeth Nikolaïevna.
« Comment as-tu dit ? »
répliqua la mère, qui allait de nouveau commencer une mercuriale, mais qui s'arrêta court devant le regard étincelant de sa fille.
« Comment avez-vous pu, maman, parler de scandale ?»
continua en rougissant Lisa.
« Je suis venue ici de moi-même, avec la permission de Julie Mikhaïlovna, parce que je voulais connaître l'histoire de cette malheureuse, pour lui être utile. »«
L'histoire de cette malheureuse ?» répéta ironiquement Praskovy Ivanovna.
« Quel besoin as-tu de t'immiscer dans de pareilles histoires ?»«
Oh, Matouchka, nous en avons assez de votre despotisme !» poursuivit-elle avec rage, en se tournant vers Barbara Petrovna.
On dit, à tort ou à raison, que vous teniez toute cette ville sous votre joug. Mais il paraît que vos beaux jours sont passés.
Barbara Petrovna était comme une flèche prête à partir. Immobile, elle regarda sévèrement pendant 10 secondes Praskovy Ivanovna.
Allons, prie Dieu, Praskovy, pour que toutes les personnes ici présentes soient des gens sûrs.
Dit-elle enfin avec une tranquillité sinistre.
« Tu as beaucoup trop parlé. »«
Moi, ma mère, je n'ai pas si peur que d'autres de l'opinion publique. C'est vous qui, nonobstant vos airs hautains, tremblez devant le jugement du monde. Et si les personnes ici présentes sont des gens sûrs, tant mieux pour vous. »«
Tu es devenue intelligente cette semaine ?»«
Non, mais cette semaine, la vérité s'est fait jour. »«
Quelle vérité s'est fait jour cette semaine ?»
« Écoute, Praskovy Ivanovna, ne m'irrite pas. Explique-toi à l'instant. Je t'adjure de parler. Quelle vérité s'est fait jour? Et que veux-tu dire par ces mots ?»
Praskovy Ivanovna se trouvait dans un état d'esprit où l'homme, tout au désir de frapper un grand coup, ne s'inquiète plus des conséquences.
« Mais la voilà, toute la vérité. Elle est assise là !»
répondit-elle en montrant du doigt Marie Timofeyevna. Celle-ci, qui n'avait cessé de considérer Praskovy Ivanovna avec une curiosité enjouée, se mit à rire en se voyant ainsi désignée par la visiteuse irritée, et s'agita gaiement sur son fauteuil.
« Seigneur Jésus-Christ, ils sont tous fous !» s'écria Barbara Petrovna, qui blêmit et se renversa sur le dossier de son siège.
Sa pâleur nous alarma. Stepan Trofimovitch s'élança le premier vers elle. Je m'approchai aussi.
Lisa elle-même se leva, sans du reste s'éloigner de son fauteuil. Mais nul ne manifesta autant d'inquiétude que Praskovy Ivanovna. Elle se leva du mieux qu'elle put et se mit à crier d'une voix dolente.
« Matouchka, Barbara Petrovna, pardonnez-moi ma sottise et ma méchanceté, mais que quelqu'un lui donne au moins de l'eau !»
« Ne pleurniche pas, je te prie, Praskovy Ivanovna. Et vous, messieurs, écartez-vous, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin d'eau. »
dit avec fermeté Barbara Petrovna, quoique la parole eût encore peine à sortir de ses lèvres décolorées.
« Matouchka !» reprit Praskovy Ivanovna un peu tranquillisée. « Ma chère Barbara Petrovna, sans doute j'ai eu tort de vous tenir un langage à considérer. Mais toutes ces lettres anonymes dont me bombardent de petites gens m'avaient poussée à bout. Si encore ils vous les adressaient, puisque c'est à propos de vous qu'ils les écrivent. Moi, Matouchka, j'ai une fille. »
Les yeux tout grands ouverts, Barbara Petrovna la regardait en silence et l'écoutait avec étonnement. Sur ces entrefaites, une porte latérale s'ouvrit sans bruit et Daria Pavlovna fit son apparition. Elle s'arrêta un instant sur le seuil pour promener ses yeux autour d'elle. Notre agitation la frappa. Il est probable qu'elle ne remarqua pas tout de suite Marie Timofeyevna, dont personne ne lui avait annoncé la présence. Stepan Trofimovitch aperçut le premier la jeune fille. Il fit un mouvement brusque et s'écria en rougissant « Daria Pavlovna !» À ces mots, tous les regards se portèrent vers la nouvelle venue.
« Comment ? Ainsi c'est là votre Daria Pavlovna ?»
s'exclama Marie Timofeyevna.
« Eh bien, Matouchka, ta sœur ne te ressemble pas. Comment donc mon laquais peut-il dire « la serve, la fille de Dashka » en parlant de cette charmante personne ?»
Daria Pavlovna s'était déjà rapprochée de Barbara Petrovna, mais l'exclamation de Mademoiselle Lebiatkine lui fit brusquement retourner la tête, et elle resta debout devant sa chaise, les yeux attachés sur la folle.
« Assieds-toi, Dasha !»
dit Barbara Petrovna avec un calme effrayant.
« Plus près, là, c'est bien. Tu peux voir cette femme tout en étant assise. Tu la connais ?»«
Je ne l'ai jamais vue, » répondit tranquillement Dasha,
et après un silence, elle ajouta « C'est sans doute la sœur malade de Monsieur Lebiatkine. »
Moi aussi, mon âme, je vous vois aujourd'hui pour la première fois. Mais depuis longtemps déjà, je désirais faire votre connaissance, parce que chacun de vos gestes témoigne de votre éducation, »
fit avec élan Marie Timofeyevna.
Quant aux grillailleries de mon laquais, est-il possible en vérité que vous lui ayez pris de l'argent, vous si bien élevée et si gentille? Car vous êtes gentille, 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 je vous le dis sincèrement, »
acheva-t-elle enthousiasmée.
Comprends-tu quelque chose ?
Demanda avec une dignité hautaine Barbara Petrovna.
Je comprends tout.
De quel argent parle-t-elle ?
Et il s'agit sans doute de l'argent que, sur la demande de Nicolas Vsevolodovitch, je me suis chargée d'apporter de Suisse à ce monsieur Lebiatkine, le frère de cette femme.
Un silence suivit ces mots. « Nicolas Vsevolodovitch lui-même t'a prié de faire cette commission ?»«
Il tenait beaucoup à envoyer cet argent, une somme de 300 roubles, à monsieur Lebiatkine. Mais il ignorait son adresse. Il savait seulement que ce monsieur devait venir dans notre ville. C'est pourquoi il m'a chargé de lui remettre cette somme à son arrivée ici. »«
Quel argent a donc été perdu ? À quoi cette femme vient-elle de faire allusion ?»
Je n'en sais rien. J'ai entendu dire aussi que monsieur Lebiatkine m'accusait d'avoir détourné une partie de la somme. Mais je ne comprends pas ses paroles. On m'avait donné 300 roubles, j'ai remis 300 roubles.
Daria Pavlovna avait presque entièrement recouvré son calme. En général, il était difficile de troubler longtemps cette jeune fille et de lui ôter sa présence d'esprit, quelque émotion qu'elle éprouvât dans son fort intérieur. Toutes les réponses qu'on a lues plus haut, elle les donna posément, sans hésitation, sans embarras, d'une voix nette, égale et tranquille. Rien en elle ne laissait soupçonner la conscience d'aucune faute. Tant que dura cet interrogatoire, Barbara Petrovna ne quitta pas des yeux sa protégée. Ensuite, elle réfléchit pendant une minute.
« Si, » dit-elle avec force.
Tout en ne regardant que Dasha, elle s'adressait évidemment à toute l'assistance.
« Si Nicolas Vsevolodovitch, au lieu de me confier cette commission, t'en a chargé, c'est sans doute qu'il avait des raisons d'agir ainsi. Je ne me crois pas le droit de les rechercher, du moment qu'on me les cache. D'ailleurs, le seul fait de ta participation à cette affaire me rassure pleinement à leur égard. Sache cela, Daria. » « Mais vois-tu, ma chère, quand on ne connaît pas le monde, on peut, avec les intentions les plus pures, commettre un acte inconsidéré. Et c'est ce que tu as fait en acceptant d'entrer en rapport avec ce coquin. Les bruits répandus par ce drôle prouvent que tu as manqué de tact. mais je prendrai des renseignements sur lui. Et comme c'est à moi qu'il appartient de te défendre, je saurai le faire. Maintenant, il faut en finir avec tout cela.
Quand il viendra chez vous, le mieux sera de l'envoyer à l'antichambre,
observa tout à coup Marie Timofeyevna en se penchant en dehors de son fauteuil.
Là, il jouera aux cartes sur le coffre avec les laquais, tandis qu'ici nous boirons du café. Vous pourrez tout de même lui en faire porter une petite tasse, mais je le méprise profondément,
acheva-t-elle avec un geste expressif.
Il faut en finir,
répéta Barbara Petrovna, qui avait écouté attentivement Mademoiselle Lebiatkine.
Sonnez, je vous prie, Stepan Trofimovitch.
Celui-ci obéit et brusquement s'avança, tout agité, vers la maîtresse de la maison.
Si je... bégaya-t-il en rougissant. Si j'ai aussi entendu raconter la nouvelle, ou, pour mieux dire, la calomnie la plus odieuse, c'est avec la plus grande agitation. Enfin, cet homme est un misérable, et quelque chose comme un forçat évadé.
Il ne put achever. Barbara Petrovna l'examina des pieds à la tête en clignant les yeux. Entra le correct valet de chambre, Alexis Segorovitch.
« La voiture !» ordonna la générale Stavrogin. « Et toi, Alexis Segorovitch, prépare-toi à ramener Mademoiselle Lebiatkine chez elle. Elle t'indiquera elle-même où elle demeure. »
Monsieur Lebiatkine l'attend lui-même en bas depuis un certain temps, et il a vivement insisté pour être annoncé.
Cela ne se peut pas, Barbara Petrovna,
fit aussitôt d'un air inquiet Maurice Nikolaïevitch, qui jusqu'alors avait observé un silence absolu.
Permettez-moi de vous le dire, ce n'est pas un homme qu'on puisse recevoir. C'est un homme impossible, Barbara Petrovna.
Qu'il attende un peu, répondit cette dernière à Alexis Segorovitch. Le valet de chambre se retira.
C'est un homme malhonnête, et je crois même que c'est un forçat évadé, ou quelque chose dans ce genre,
murmura de nouveau, le rouge au visage, Stepan Trofimovitch. Praskovy Ivanovna se leva.
Lisa, il est temps de partir,
dit-elle d'un ton rogue. Elle semblait déjà regretter de s'être traitée elle-même de sotte tantôt dans un moment d'émoi. C'était avec un pli dédaigneux sur les lèvres qu'elle avait écouté tout à l'heure les explications de Daria Pavlovna. Mais rien ne me frappa autant que la physionomie d'Elisabeth Nikolaïevna depuis l'entrée de Dasha. La haine et le mépris se lisaient dans ses yeux flamboyants.
« Attends encore une minute, je te prie, Praskovy Ivanovna !»
fit toujours avec le même calme extraordinaire Barbara Petrovna.
« Aie la bonté de te rasseoir. Je suis décidée à tout dire, et tu as mal aux jambes.
Là, c'est bien, je te remercie.
Tantôt, je ne me connaissais plus, et je t'ai adressé quelques paroles trop vives. Pardonne-moi, je te prie. J'ai agi bêtement, et je suis la première à le confesser, parce qu'en tout, j'aime la justice.
Sans doute. Toi aussi, tu étais hors de toi tout à l'heure, quand tu as parlé de lettres anonymes. Toute communication non signée ne mérite que le mépris. Si tu as une autre manière de voir, je ne te l'envie pas. En tout cas, à ta place, j'aurais cru me salir en relevant de pareilles vilainies. Mais puisque tu as commencé, je te dirai que moi-même, il y a 6 jours, j'ai aussi reçu une lettre anonyme, une chose bouffonne. Dans cette lettre, un drôle quelconque m'assure que Nicolas Vsevolodovitch est devenu fou et que je dois craindre une boiteuse qui jouera un rôle extraordinaire dans ma destinée. Je me rappelle l'expression. Sachant que mon fils a une foule d'ennemis, j'ai aussitôt fait venir ici celui qui le hait secrètement de la haine la plus basse et la plus implacable. En causant avec cet homme, j'ai découvert tout de suite de quelle méprisable officine est sortie la lettre anonyme. Si toi aussi, ma pauvre Praskovy Ivanovna, on t'a inquiété à cause de moi, et, comme tu dis, bombardé de ces misérables écrits, Sans doute je suis la première à regretter d'en avoir été innocemment la cause. Voilà tout ce que je voulais te dire comme explication. Je vois avec peine que tu n'en peux plus, et qu'en ce moment tu n'es pas dans ton assiette. En outre, je suis bien décidée, non pas à recevoir, mais à laisser entrer, ce qui n'est pas la même chose, l'équivoque personnage dont il était question tout à l'heure. La présence de Lisa en particulier est inutile ici. Viens près de moi, Lisa, ma chère, et laisse-moi t'embrasser encore une fois. Lisa traversa la chambre et s'arrêta en silence devant Barbara Petrovna. Celle-ci l'embrassa, lui prit les mains, et, l'écartant un peu de sa personne, la considéra avec émotion. Puis elle fit le signe de la croix sur la jeune fille et se remit à l'embrasser. « Allons, adieu, Lisa. » Il y avait comme des larmes dans la voix de Barbara Petrovna. « Crois que je ne cesserai pas de t'aimer. Quoi que te réserve désormais la destinée, que Dieu t'assiste. J'ai toujours béni sa sainte volonté. » Elle voulait encore ajouter quelque chose, mais, faisant un effort sur elle-même, elle se tut. Lisa retournait à sa place, toujours silencieuse et pensive, quand soudain, elle s'arrêta devant sa mère. « Maman, je ne pars pas tout de suite. Je vais encore rester un moment chez ma tante, » dit-elle d'une voix douce, mais dénotant néanmoins une résolution indomptable. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» cria en frappant ses mains l'une contre l'autre Praskovie Ivanovna. Lisa, sans répondre, sans même paraître entendre, alla se rasseoir dans son coin et regarda de nouveau en l'air. Une expression de triomphe se montra sur le visage de Barbara Petrovna. « Maurice Nikolaïevitch, j'ai un grand service à vous demander. Ayez la bonté d'aller en bas jeter un coup d'œil sur cet homme. » Et s'il y a quelque possibilité de le laisser entrer, amenez-le ici. » Maurice Nikolaïevitch s'inclina et sortit. Une minute après, il revint avec M. Lebiatkin. J'ai déjà esquissé le portrait du capitaine. C'était un grand et gros gaillard de 40 ans, portant barbe et moustache. Il avait des cheveux crépus, un visage rouge et un peu bouffi, des joues flasques qui tremblaient à chaque mouvement de sa tête, et de petits yeux injectés, parfois assez malins. La pomme d'Adam était chez lui très saillante, ce qui ne l'avantageait pas. Mais, dans la circonstance présente, je remarquai surtout son frac et son linge propre. Il y a des gens à qui le linge propre ne va pas, comme disait Lipoutine, un jour que Stepan Trofimovitch lui reprochait sa malpropreté. Le capitaine avait aussi des gants noirs. Il était parvenu, non sans peine, à mettre à demi celui de la main gauche. Quant à l'autre, il le tenait dans sa main droite, ainsi qu'un superbe chapeau rond qui, assurément, servait pour la première fois. Je pus donc me convaincre que le frac de l'amour dont il avait parlé la veille à Chatov était bel et bien une réalité. Habits et linge avaient été achetés, je le sus plus tard, sur le conseil de Lipoutine, en vue de certains projets mystérieux. Il n'y avait pas à douter non plus que la visite actuelle de Lebiatkin ne fut dû également à une inspiration étrangère. Seul, il n'aurait pu ni en concevoir l'idée, ni la mettre à exécution en l'espace de 3/4 d'heure, à supposer même qu'il eût été immédiatement instruit de la scène qui s'était passée sur le parvis de la cathédrale. Il n'était pas ivre, mais se trouvait dans cet état de pesanteur et d'abrutissement où vous laisse une orgie prolongée durant plusieurs jours consécutifs. Au moment où il entrait comme une trombe dans le salon, il trébucha dès le seuil sur le tapis. Marie Timofeyevna éclata de rire. Le capitaine lui lança un regard féroce et s'avança rapidement vers Barbara Petrovna. « Je suis venue, madame » commença-t-il d'une voix tonnante. « Faites-moi le plaisir, monsieur, » dit Barbara Petrovna en se redressant, « de vous asseoir là, sur cette chaise. Je vous entendrai fort bien de là, et je pourrai mieux vous voir. » Le capitaine s'arrêta, regarda devant lui d'un air hébété, mais revint sur ses pas et s'assit à la place indiquée, c'est-à-dire tout près de la porte. Sa physionomie était celle d'un homme qui joint à une grande défiance de lui-même une forte dose d'impudence et d'irascibilité. Il ne se sentait pas à son aise, cela était évident. Mais d'un autre côté, son amour-propre souffrait, et l'on pouvait prévoir que, le cas échéant, l'orgueil blessé ferait un effronté de ce timide. Conscient de sa gaucherie, il osait à peine bouger. Comme tout le monde l'a remarqué, la principale souffrance des messieurs de ce genre, quand par grand hasard ils apparaissent dans un salon, c'est de ne savoir que faire de leurs mains. Le capitaine, tenant dans les siennes son chapeau et ses gants, restait les yeux fixés sur le visage sévère de Barbara Petrovna. Il aurait peut-être voulu regarder plus attentivement autour de lui, mais il ne pouvait encore s'y résoudre. Marie Timofeyevna partit d'un nouvel éclat de rire, trouvant sans doute fort ridicule la contenance embarrassée de son frère. Celui-ci ne remua pas. Barbara Petrovna eut l'inhumanité de le laisser ainsi sur les épines pendant toute une minute. « D'abord, permettez-moi d'apprendre de vous-même votre nom, » dit-elle enfin d'un ton glacial, après avoir longuement examiné le visiteur. « Le capitaine Lebiatkin, » répondit ce dernier de sa voix sonore. « Je suis venu, madame. »«
Permettez, » interrompit de nouveau Barbara Petrovna. « Cette malheureuse personne qui m'a tant intéressée est en effet votre sœur ?»«
Oui, madame. Elle a échappé à ma surveillance, car elle est dans une position... »
Il rougit soudain et commença à patauger.
« Entendez-moi bien, madame. Un frère ne s'alliera pas dans une position... Cela ne veut pas dire dans une position qui entache la réputation. Depuis quelque temps... »
Il s'arrêta tout à coup. « Monsieur, » fit la maîtresse de la maison en relevant la tête.
« Voici dans quelle position elle est !» acheva brusquement le visiteur, et il appliqua son doigt sur son front.
Il y eut un silence.
« Et depuis quand souffre-t-elle de cela ?»
demanda négligemment Barbara Petrovna.
« Madame, je suis venue vous remercier de la générosité dont vous avez fait preuve sur le parvis. Je suis venue vous remercier à la russe, fraternellement. »
Fraternellement?
C'est-à-dire, pas fraternellement, mais en ce sens seulement que je suis le frère de ma sœur, madame. Et croyez, madame, poursuivit-il précipitamment, tandis que son visage devenait cramoisi. Croyez que je ne suis pas aussi mal élevé que je puis le paraître à première vue dans votre salon. Ma sœur et moi, nous ne sommes rien, madame, comparativement au luxe que nous remarquons ici. Ayant, de plus, des calomniateurs... Mais Lebiatkin tient à sa réputation, madame, et je suis venu vous remercier. Voilà l'argent, madame. »
Sur ce, il tira de sa poche un portefeuille et y prit une liasse de petites coupures qu'il se mit à compter. Mais l'impatience faisait trembler ses doigts. D'ailleurs, lui-même sentait qu'il avait l'air encore plus bête avec cet argent dans les mains. Aussi se troubla-t-il définitivement. Pour l'achever, un billet de banque vert s'échappa du portefeuille et s'envola sur le tapis.
« 20 roubles, madame, » dit le capitaine dont le visage ruisselait de sueur.
Et, sa liasse de papier-monnaie à la main, il s'avança vivement vers la maîtresse de la maison. Apercevant le billet de banque tombé par terre, il se baissa d'abord pour le ramasser, puis il rougit de ce premier mouvement, et, avec un geste d'indifférence,
« Ce sera pour vos gens, madame, » dit-il. « Pour le laquais qui le ramassera, il se souviendra de Lebiatkin. »
« Je ne puis permettre cela, » se hâta de répondre Barbara Petrovna un peu inquiète.
« En ce cas,
Il ramassa la signa, devint pourpre, et, s'approchant brusquement de son interlocutrice, lui tendit l'argent qu'il venait de compter.
« Mais qu'est-ce que c'est ? » s'écria-t-elle, positivement effrayée cette fois, et elle se recula même dans son fauteuil. « Maurice Nikolaïevitch, Stepan Trofimovitch et moi ? »
Ah ben non. Maurice Nikolaïevitch, Stepan Trofimovitch et moi, nous nous avançâmes aussitôt vers elle.
« Calmez-vous, calmez-vous, je ne suis pas fou. Je vous assure que je ne suis pas fou. »
répétait à tout le monde le capitaine, fort agité.
« Si, monsieur, vous avez perdu l'esprit. »
« Madame, tout cela n'est pas ce que vous pensez. Sans doute, je suis un insignifiant chaînon. Oh, madame, somptueuse est votre demeure, tandis que bien pauvre est celle de Marie l'inconnue, ma sœur, née les Biatkin, mais que nous appellerons pour le moment Marie l'inconnue, en attendant, madame, en attendant... Seulement, car Dieu ne permettra pas qu'il en soit toujours ainsi. Madame, vous lui avez donné 10 roubles et elle les a reçus, mais parce qu'il venait de vous, madame. Écoutez, madame, de personne au monde cette Marie l'inconnue n'acceptera rien, autrement frémirait dans la tombe l'officier d'état-major, son grand-père, qui a été tué au Caucase sous les yeux même d'Ermolov. Mais de vous, madame, de vous, elle acceptera tout. Seulement, si d'une main elle reçoit, de l'autre elle vous offre 20 roubles sous forme de don à l'un des comités philanthropiques dont vous êtes membre, madame. Car vous-même, madame, avez fait insérer dans la Gazette de Moscou un avis comme quoi l'on peut souscrire ici, chez vous, au profit d'une société de bienfaisance.
Le capitaine s'interrompit tout à coup. Il respirait péniblement, comme après l'accomplissement d'une tâche laborieuse. La phrase sur la société de bienfaisance avait été probablement préparée d'avance, peut-être dictée par Lipoutine. Le visiteur était en nage. Barbara Petrovna fixa sur lui un regard pénétrant.
Le livre se trouve toujours en bas chez mon concierge, répondit-elle sévèrement. Vous pouvez y inscrire votre offrande si vous voulez. En conséquence, je vous prie maintenant de serrer votre argent et de ne pas le brandir en l'air. C'est cela. Je vous prie aussi de reprendre votre place. C'est cela. Je regrette fort, monsieur, de m'être trompé sur le compte de votre sœur et de lui avoir fait l'aumône alors qu'elle est si riche. Il y a seulement un point que je ne comprends pas. Pourquoi de moi seule peut-elle accepter quelque chose, tandis qu'elle ne voudrait rien recevoir des autres ? Vous avez tellement insisté là-dessus que je désire une explication tout à fait nette.
Madame, c'est un secret qui ne peut être enseveli que dans la tombe, reprit le capitaine.
Pourquoi donc ? Demanda Barbara Petrovna d'un ton qui semblait déjà un peu moins ferme. Madame, madame.
S'enfermant dans un sombre silence, il regardait à terre, la main droite appuyée sur son cœur. Barbara Petrovna attendait, sans le quitter des yeux.
« Madame, cria-t-il tout à coup, me permettez-vous de vous faire une question ? Une seule, mais franchement, ouvertement, à la russe.
Parlez.
Avez-vous souffert dans votre vie, madame ?
Vous voulez dire simplement que vous avez souffert ou que vous souffrez par le fait de quelqu'un ?
Madame, madame, Dieu lui-même, au jugement dernier, s'étonnera de tout ce qui a bouillonné dans ce cœur,
répliqua le capitaine en se frappant la poitrine. C'est beaucoup dire.
Madame, je me sers peut-être d'expressions trop vives.
Ne vous inquiétez pas, je saurai vous arrêter moi-même quand il le faudra.
Puis-je vous soumettre encore une question, madame ?
Voyons.
Peut-on mourir par le seul fait de la noblesse de son âme ?
Je n'en sais rien. Je ne me suis jamais posé cette question.
Vous n'en savez rien. Vous ne vous êtes jamais posé cette question,
cria Lebiatkin avec une douloureuse ironie.
Eh bien, puisqu'il en est ainsi, tais-toi, cœur sans espoir.
Et il s'allongea un violent coup de poing dans la poitrine. Ensuite, il commença à se promener dans la chambre.
le trait caractéristique de ces gens-là est une complète impuissance à refouler en soi leurs désirs. Ceux-ci, à peine conçus, tendent irrésistiblement à se manifester, et souvent au mépris de toutes les convenances. Hors de son milieu, un monsieur de ce genre commencera d'ordinaire par se sentir gêné. Mais, pour peu que vous lui lâchiez la bride, il deviendra tout de suite insolent. Le capitaine, fort échauffé, allait çà et là en gesticulant. Il n'écoutait pas ce qu'on lui disait et parlait avec une telle rapidité que parfois il bredouillait. Alors, sans achever sa phrase, il en commençait une autre. À la vérité, il était peut-être en partie sous l'influence d'une sorte d'ivresse. Dans le salon se trouvait Elisabeth Nikolaïevna, qu'il ne regardait pas, mais dont la présence devait suffire pour lui tourner la tête. Du reste, ce n'est là qu'une supposition de ma part. Sans doute Barbara Petrovna avait ses raisons pour triompher de son dégoût et consentir à entendre un pareil homme. Praskovie Ivanovna était toute tremblante, bien que, à vrai dire, elle ne parut pas savoir au juste de quoi il s'agissait. Stepan Trofimovitch tremblait aussi. Mais lui, c'était, au contraire, parce qu'il croyait trop bien comprendre. Maurice Nikolaïevitch semblait être là comme un ange tutélaire. Lisa était pâle, et ses yeux grands ouverts ne pouvaient se détacher de l'étrange capitaine. Chatov avait toujours la même attitude. Mais, chose plus surprenante que tout le reste, la gaieté de Marie Timofeyevna avait fait place à la tristesse. Le coude droit appuyé sur la table, la folle, pendant que son frère pérorait, ne cessait de le considérer d'un air chagrin. Seule Daria Pavlovna me parut calme. À la fin, Barbara Petrovna se fâcha. « Toutes ces allégories ne signifient rien. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi ? J'attends impatiemment une réponse. »« Je n'ai pas répondu au pourquoi. Vous attendez une réponse au pourquoi ?» reprit le capitaine avec un clignement d'yeux. « Ce petit mot « pourquoi » est répandu dans tout l'univers depuis la naissance du monde, madame. À chaque instant, toute la nature crie à son créateur « pourquoi ?» Et voilà 7000 ans qu'elle attend en vain une réponse. Se peut-il que le capitaine Lebiadkin seul réponde à cette question et que sa réponse soit juste, madame ? Tout cela est absurde et ne rime à rien, répliqua Barbara Petrovna irritée. Ce sont des allégories. De plus, vous parlez trop pompeusement, monsieur, ce que je considère comme une impertinence. Madame, poursuivit le capitaine sans l'écouter. « Je désirerais peut-être m'appeler Ernest, et pourtant je suis condamné à porter le vulgaire nom d'Ignace. Pourquoi cela, selon vous ? Je voudrais pouvoir m'intituler prince de Montbard, et je ne suis que Lebiadkin, tout court. Pourquoi cela ? Je suis poète, madame, poète dans l'âme. Je pourrais recevoir 1000 roubles d'un éditeur. Et cependant, je suis forcé de vivre dans un taudis. Pourquoi ? Pourquoi ? Madame, à mon avis, la Russie est un jeu de la nature, rien de plus. Décidément, vous ne pouvez rien dire de plus précis. Je puis vous réciter une poésie, le Cancrela, madame. Quoi ? Madame, je ne suis pas encore fou. Je le deviendrai certainement, mais je ne le suis pas encore. Madame, un de mes amis, un homme très noble, a écrit une fable de Krylov, intitulée « Le Cancrela ». Puis-je vous en donner connaissance ? Vous voulez réciter une fable de Krylov ? Non, ce n'est pas une fable de Krylov que je veux réciter, mais une fable de moi, de ma composition. Croyez-le bien, madame. Je ne suis ni assez inculte, ni assez abruti pour ne pas comprendre que la Russie possède dans Krylov un grand fabuliste à qui le ministre de l'Instruction publique a érigé un monument dans le jardin d'été. Tenez, madame, vous demandez pourquoi ? La réponse est au fond de cette fable, en lettres de feu.
Récitez votre fable.
Il existait sur la terre un modeste cancrelat. Un jour, le pauvre, hélas, se laissa choir dans un verre. Or, ce verre était rempli d'un aliment pour les mouches.
« Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça ? »
s'écria Barbara Petrovna.
En été, quand on veut prendre des mouches, on met dans un verre un aliment dont elles sont friandes,
se hâta d'expliquer le capitaine avec la mauvaise humeur d'un auteur troublé dans sa lecture.
N'importe quel imbécile comprendra. N'interrompez pas, n'interrompez pas. Vous verrez, vous verrez.
À cette vue, un grand cri, s'adressant à Jupiter, sort aussitôt de leur bouche. Ne peux-tu donc pas ôter ces intrus de votre verre ? Arrive un vieillard sévère, le très noble Nikifor.
Je n'ai pas encore fini, mais cela ne fait rien. Je vais vous raconter le reste en prose.
Nikifor prend le verre et, sans s'inquiéter des cris, jette les mouches, le cancrelat et tout le tremblement dans le bac aux ordures. Ce qu'il aurait fallu faire depuis longtemps.
Mais remarquez, remarquez, madame, que le cancrelat ne murmure pas. Voilà la réponse à votre question,
ajouta le capitaine en élevant la voix avec un accent de triomphe. Le cancrelat ne murmure pas.
Quant à Nikifor, il représente la nature,
acheva-t-il rapidement, et, enchanté de lui-même, il reprit sa promenade dans la chambre.
Permettez-moi de vous demander, dit Barbara Petrovna, outrée de colère, comment vous avez osé accuser une personne appartenant à ma maison d'avoir détourné une partie de l'argent à vous envoyé par Nicolas Vsevolodovitch.
Calomnie ! Vociféra Lebiatkine avec un geste tragique.
Non, ce n'est pas une calomnie.
Madame, dans certaines circonstances, on se résigne à subir un déshonneur domestique plutôt que de proclamer hautement la vérité.
Lebiatkine se taira, madame.
Sentant sa position très forte, il était comme grisé par la conscience de ses avantages sur son interlocutrice. Il éprouvait un besoin de blesser, de salir, de montrer sa puissance.
« Sonnez, s'il vous plaît, Stepan Trofimovitch !»
dit Barbara Petrovna.
« Lebiatkine n'est pas un niais, madame !»
continua le capitaine en clignant de l'œil avec un vilain sourire.
« C'est un malin !» Mais chez lui aussi, un vestibule est ouvert aux passions. Et ce vestibule, c'est la vieille bouteille du hussard, chantée par Denis Davidoff. Voilà, quand il est dans ce vestibule, madame, il lui arrive d'envoyer une lettre en vers, lettre très noble, mais qu'il voudrait ensuite n'avoir pas écrite. Oui, il donnerait, pour la ravoir, les larmes de toute sa vie, car le sentiment du beau y est blessé. Malheureusement, lorsque l'oiseau a pris son vol, on ne peut pas le saisir par la queue. Eh bien, dans ce vestibule, madame, sous le coup de la généreuse indignation éveillée en lui par les affronts dont il est abreuvé, Lebiatkine a pu aussi s'exprimer en termes inconsidérés sur le compte d'une noble demoiselle, et ses calomniateurs en ont profité. Mais Lebiatkine est rusé, madame. En vain, un loup sinistre l'obsède continuellement et ne cesse de lui verser à boire, espérant le faire parler. Lebiatkine se tait, et au fond de la bouteille, ce qui chaque fois se rencontre au lieu du mot attendu, c'est la ruse de Lebiatkine. Mais assez, oh, assez, madame, votre somptueuse habitation pourrait appartenir au plus noble des êtres. Mais le cancrelat ne murmure pas. Remarquez donc, remarquez enfin qu'il ne murmure pas, et reconnaissez sa grandeur d'âme.
En bas, dans la loge du concierge, se fit entendre un coup de sonnette, et presque au même instant se montra Alexis Egoritch que Stepan Trofimovitch avait sonné tout à l'heure. Le vieux domestique, aux allures si correctes, était en proie à une agitation extraordinaire.
Nicolas Vsevolodovitch vient d'arriver, et il sera ici dans un moment,
déclara-t-il en réponse au regard interrogateur de sa maîtresse. Je me rappelle très bien comment Barbara Petrovna accueillit cette nouvelle. D'abord elle pâlit, mais soudain ses yeux étincelèrent. Elle se redressa sur son fauteuil, et son visage prit une expression d'énergie qui frappa tout le monde. Outre que l'arrivée de Nicolas Vsevolodovitch était complètement imprévue, puisqu'on ne l'attendait pas avant un mois, cet événement, dans les conjonctures présentes, semblait un véritable coup de la fatalité. Le capitaine lui-même s'arrêta, comme pétrifié, au milieu de la chambre, et resta bouche béante, regardant la porte d'un air extrêmement bête. Dans la pièce voisine, retentirent des pas légers et rapides, puis quelqu'un fit brusquement irruption dans le salon. Mais ce n'était pas Nicolas Vsevolodovitch.